Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de First Pitch, votre podcast MLB sur les antennes de TFA. On est de retour aujourd'hui, je suis de retour aujourd'hui avec Chris, ce coup-ci. Il a été, on l'a laissé au repos, on a fait la rotation la semaine dernière, Il faut dire qu'il reprenait aussi avec Bean, donc on peut pas être partout à la fois, mais on est super content de le retrouver aujourd'hui. Comment ça va, Chris ?
Ça va, Charles, ça va. La saison a bien repris en terre américaine, donc ça y est, c'est le feu est parti.
En terre américaine, ça a repris. On en parlera en fin de podcast, mais ça va reprendre en terre française aussi. La D1 qui va reprendre dès ce week-end, si je ne dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, évidemment, on va parler principalement de ce début de saison en MLB. Ça a repris jeudi soir avec le vrai, entre guillemets, opening day. C'est où le series, ça comptait pas vraiment pour un opening day. Et on va parler plus particulièrement, forcément, des Yankees qui démarrent de manière assez, j'ai presque envie de dire, surprenante. Parce qu'il y a un sweep et parce qu'ils sont encore invaincus à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Ils en sont à 5 victoires, donc on parlera de ces Yankees. On parlera de deux autres équipes aussi qui sont invaincues. Et ce n'est pas forcément celles qu'on attendait à être invaincues, c'est les Tigers et les Pirates. Est-ce qu'on ne tient pas là, par exemple, nos futures deux surprises un petit peu de cette saison ? Et comme Chris est là, je ne peux pas ne pas mettre au programme quelque chose qui ne parle pas des Dodgers. On est obligé. Et on va parler de Mookie Betts particulièrement parce que le début de saison du nouveau shortstop des Dodgers qui est tout simplement phénoménal. Donc voilà, le menu, c'est celui-ci pour cet épisode de First Pitch. Et on démarre tout de suite, pas par les Yankees, mais par un événement qui a eu lieu la nuit dernière. C'est le premier no-hitter. Match sans coup sûr de la part de Blanco, du lanceur des Astros, qui a lancé un no-hitter face aux Blue Jays de Toronto. Victoire 10-0 des Astros, quand même, hein, soit dit en passant. Et premier no-hitter de la saison, c'est arrivé plutôt très très vite quand même. Surtout que les Astros, Chris, venaient de se faire juste sweeper par les Yankees en plus.
Oui, il faut dire, les no-hitters, c'est assez exceptionnel. La chose la plus exceptionnelle pour les lanceurs et pour une équipe dans sa globalité, c'est le perfect game. Donc, 27 personnes qui se présentent à la batte et 0 qui touchent la première base. Le no-hitter est une version un peu plus light. Il peut y avoir quelques buts sur balle ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est une performance exceptionnelle. Et je crois que c'est Framber Valdez qui avait réussi à en faire un l'année dernière pour les Astros en milieu de saison. Et là, il récidive assez tôt avec un autre lanceur dominicain. Mais pour la petite anecdote, c'est quasiment un rookie. C'est son 8e start, je crois, ouais, si je ne dis ça. Pas de bêtises. Si je ne m'abuse, l'année dernière, il y a eu un lanceur des Yankees qui en a réussi un juste après qu'il ait eu un bébé également. Et je crois que pour Blanco, il a eu son enfant la semaine dernière. Et là, il y a peut-être ce besoin de relativiser. On n'a plus l'émotion. On se dit, c'est pas trop grave. Ça y est, j'ai mon bébé, il est là avec moi. Et on a peut-être moins peur, soit de perdre ou de gagner. Et on y va un peu plus. Ça arrive souvent hein, dans le sport, n'importe quel sport, que des athlètes puissent avoir une meilleure vision, la gestion des émotions une fois que les enfants arrivent. Donc, pour lui, c'est arrivé et c'est exceptionnel. Zéro hit, surtout face à un line-up qui est quand même assez redoutable. Les Blue Jays, c'est pas n'importe qui en face.
Voilà, ça a très bien débuté la saison aussi du côté des Blue Jays avec un Vladimir Guerrero Jr. qui n'a pas commencé la saison pour blaguer. Hein. Il a directement bien débuté avec un énorme home run. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le champ centre, je crois 450 pieds. C'était jusqu'à hier soir, c'était le plus long de la saison. Mike Trout, forcément, est passé par là hier soir. Oui, c'était une sacrée performance face à un rival, on va dire, de la même ligue, avec qui ils devront sans doute se battre potentiellement pour une place en wild card et en play-off à la fin de la saison. Mais effectivement, comme tu l'as dit, 8e départ, c'est juste incroyable de, après aussi peu, entre guillemets, d'expérience dans la grande ligue, de pouvoir réaliser ça et puis pas, no offense aux Rockies ou aux Athletics, mais face à une équipe qui joue probablement le haut du tableau. Effectivement, ce que je disais juste avant, les Astros, en plus, donc première victoire cette saison, parce qu'ils se sont fait sweeper par les Yankees lors de la série d'ouverture entre jeudi et dimanche. Alors, je t'avoue un truc, jeudi soir, après trois manches et un score de 4-0 pour les Astros face aux Yankees, j'étais pas tout à fait serein par rapport à la suite à donner. Pourtant, eh ben, les Yankees se sont imposés jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour compléter un sweep face à leur meilleur ennemi, parce que c'est l'équipe qui les a éliminés assez régulièrement en playoff ces dernières années, qui les a privés de potentiel World Series. Cette équipe des Yankees qu'on disait peut-être pas forcément dans la meilleure forme qui soit, avec l'absence de Gerrit Cole, avec des incertitudes par rapport au petit nouveau qui est arrivé, par rapport à plein de choses avec cette saison et la saison notamment 2023 qui s'était soldée sans play-off. Et ben là, Chris, on a une version des Yankees, ça ne fait que 5 matchs, on ne va pas tirer de conclusion hâtive en disant que ça y est, c'est bon, les Yankees vont aller au World Series. D'autant plus que j'ai quand même une petite stat qui est assez drôle. Donc, ils en sont à 5 victoires de suite. C'est la première fois depuis 1992 qu'ils le font. C'est la quatrième fois de leur histoire qu'ils débutent une saison de cette manière-là. Les deux autres fois, c'était en 1988 et en 1933. Est-ce que tu sais le point commun entre ces, entre ces trois saisons, 92, 88 et 1933 ?
Mais ils ont fini à moins de 500 de victoire.
Ils n'ont pas fait les playoffs.
Voilà, c'est ça.
Ils n'ont pas fait les playoffs. Donc, tirez des conclusions si vous en avez envie, si vous avez envie d'en tirer. Moi, je vous informe juste que les trois dernières fois que ça a fait ça, ils n'ont pas fait les playoffs non plus.
C'est ça.
Bon, ton avis un petit peu sur ce début de saison, sur ces cinq matchs, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là ?
Moi, j'en pense, alors si on parle des Yankees, c'est oui. Que ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu d'équipe et que malgré le fait que ton meilleur joueur n'est pas là, étant donné que la domination qu'on peut avoir quand on a un bon lanceur, eh bien, on peut quand même gagner des matchs. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'est Gerrit Cole qui a gagné beaucoup de matchs quand il est parti. Mais il faut quand même avoir une équipe solide et surtout avec des joueurs qui sortent un peu du bois. On en parlait, je crois, il y a 2-3 semaines. Il y a des managers qui sont capables de faire éclore des jeunes pousses et de les mettre dans des conditions où ils vont pouvoir performer. Et bien, jusqu'à présent, Aaron Boone était plus sur essayer de gérer des Ferrari comme Dave Roberts aux Dodgers. Voilà, il y a des beaux outils, il y a des beaux ingrédients. Et bien là, il va falloir qu'ils composent parce qu'il y a des blessés et qu'il faut que ça puisse pousser. Et Volpi en fait partie, et Cabrera en fait partie, et Gilles en fait partie. Et voilà, le lanceur starter était Nestor Cortes. Donc Nestor Cortes, normalement, ce n'est pas l'ace qu'on attend des Yankees. Il peut lancer, voilà, il peut être le starter 4 ou 5. Il a fait une très bonne saison dans toute sa carrière. C'est pas non plus le leader qu'on peut avoir. Donc tout ça pour répondre à la question. Eh bien, on s'y attendait pas. Maintenant, c'est un sport d'équipe avec des détonateurs, avec des joueurs qui peuvent permettre de mettre des étincelles. Soto en fait partie. Voilà, lui. Carrément, il a quelque chose à prouver, il arrive avec un gros contrat, il a envie de délivrer, il a envie de mettre le feu à la mèche. Si Judge s'y met également, eh bien, ça peut faire des belles explosions, les deux, là, le gaucher-droitier face à cela. Et puis, on a entendu parler de voilà, Volpi, la pseudo-pépite, parce que pour l'instant, c'est... encore un potentiel, un prospect qu'il n'a pas encore délivré. L'année dernière, c'était pas mal, mais on s'est dit qu'il fallait que D'après Aaron Boone, hein, c'est ce qu'il avait dit, il faut qu'il prenne le temps en Big Leagues pour continuer son développement. Ils auraient pu faire le choix comme Holiday, de le mettre en AAA et de continuer son développement, parce que les Orioles aujourd'hui n'en ont pas besoin. Aaron Boone avait dit non, on va continuer le développement quand il sera en Big League. Et bien là, son début de saison, il a beaucoup travaillé cet hiver. D'après ce que dit Boone aussi, c'est que ses balles pop plus de sa batte, ça explose un peu plus de son bâton, il a beaucoup travaillé cet hiver. Donc ces trois joueurs-là vont faire en sorte que eh bien, ça puisse démarrer l'étincelle et démarrer quelque chose d'assez fort. Et au début de saison, il est toujours possible de pouvoir faire des coups face à des équipes qui ne sont pas encore prêtes. L'année dernière, les Rays avaient commencé avec 13 victoires et 0 défaites. Et ils ont été un peu, pas pitoyables, mais en play-off, ça a été la catastrophe. Donc, et effectivement, les dernières équipes qui ont fait ça chez les Yankees en 92, et ils n'ont même pas terminé à 500 de moyenne. Donc, cette dernière stat que je n'avais pas sur les trois autres saisons, ça ne veut absolument rien dire. Ça fait qu'une seule semaine que ça a débuté. Maintenant, ça fait du bien de se dire qu'une équipe peut être avec un meilleur départ que des MVP, des top players, des Cy Young, parce qu'on est un sport d'équipe malgré tout, avec de fortes individualités. Cependant, pour aller au bout et pour gagner une saison, il faut quand même avoir beaucoup de bons joueurs de qualité partout. Et ce n'est pas encore ce qu'a les Yankees, du fait des blessures et aussi des trous un peu dans la raquette sur leur équipe. Maintenant, c'est toujours plaisant, même si voilà, je ne suis pas un supporter des Yankees, de voir les Yankees en top, parce qu'on a besoin des Yankees au plus haut niveau.
Tout à fait. Tu as souligné le fait qu'il y avait ces trois joueurs qui portaient actuellement là, sur ces cinq premiers matchs. Et on a vraiment identifié trois joueurs qui portaient le reste parce qu'effectivement, Aaron Judge, pour le moment, est plus que discret. Stanton a frappé un home run. Il y a des blessures. Volpi, Soto et Cabrera, c'est 14 points produits sur les 26 au total qu'ont inscrit les Yankees depuis ce début de saison. On parle de trois joueurs qui ont un OPS, donc c'est le slugging percentage plus le on-base percentage, supérieur à 1 et pas juste 1,0 machin. Non, non, Volpi c'est 1,667, c'est le troisième meilleur de la MLB. Cabrera c'est 1,179 et Soto 1,210. Et ces trois-là ont 4 home runs au global. Soto s'est montré à son avantage aussi en défense, avec ce relais depuis le champ droit au marbre directement pour retirer Tucker, si je dis pas de bêtises, sur le match 1 lors de la 9e manche. On sent qu'il a effectivement pris, il a envie de prendre aussi cette responsabilité-là, même s'il est très jeune. On l'oublie souvent parce que ça fait un moment qu'il est là, mais il reste très jeune et on a l'impression qu'il a vraiment envie de porter aussi cette équipe des Yankees, en attendant que, on va dire, les vieux briscards que sont Judge ou Stanton, si jamais il arrive à se réveiller, reprennent un petit peu le lead sur cette équipe. Mais en tout cas, Volpi, effectivement, je lisais aussi ce matin à son sujet, il a énormément travaillé, comme tu l'as dit, pendant l'intersaison, sur son swing, parce qu'il disait, et là je vais faire appel à ton passé de joueur, il trouvait qu'il se reposait beaucoup trop sur son pied arrière, donc le back foot, et du coup, il a énormément travaillé pour essayer de rééquilibrer un petit peu sa manière de swinguer. En quoi c'est important pour un joueur est-ce que c'est facile pour un joueur de modifier à ce point sa manière de frapper?
Ah non, c'est extrêmement dur. Toute habitude qui est prise lors de sa plus grande jeunesse, c'est-à-dire autour des 10 ans, 10-15 ans, tu vas fondamentalement garder la même chose que tu as su faire et ce qui a pu éventuellement te mettre dans ce niveau-là, ce qui lui a permis d'arriver au plus haut niveau, c'était il s'écrase un petit peu, il utilise beaucoup ses jambes, son genou qui touche quasiment le sol, un peu comme le fait Soto également, ils utilisent énormément leurs jambes. Et après, pour changer, pour répondre à ta question, c'est extrêmement dur. Pour pas revenir à ces travers, après, il peut y avoir des petits ajustements. Les small adjustments font que tu peux arriver à quelque chose d'un peu plus efficace, d'ouvrir, d'avoir un peu plus de rotation. Maintenant, pour Volpi, le fait est qu'il était extrêmement fort sur cette jambe droite, faisait qu'il était sur donc, la partie de son poids arrière. Ça le bloquait sur la rotation, faisant en sorte qu'il était un peu moins vite et qu'il ne gagnait pas sur l'inertie du swing, comme peut l'avoir, on va en parler tout à l'heure, un Mookie Betts, qui fait 1m80, qui est tout sec et qui, lui, fait de l'optimisation fiscale du swing. Tout est optimisé. Il va vers l'avant, il stay back. Donc, translation, rotation, pour pouvoir faire le follow through, l'extension vers la balle. Donc, bon, c'est des termes un peu techniques, mais tu m'as lancé là-dessus et j'en suis ravi. Lui, il s'écrasait un petit peu sur ce back leg, sur sa jambe droite. Mm-hmm. Il restait en arrière, sauf que il faisait une rotation sans pour autant faire cette translation et ses mains allaient un peu plus vers la gauche. Là, on a vu les 4-5 hits qu'il avait. Je crois hier, il en a fait 4. On voit, il frappe à droite, il frappe au centre, il frappe à gauche. La balle, elle jump parce qu'il a trouvé le bon rythme. On va vers l'avant, on utilise la rotation et on est balance. Et le moment où on fait le transfert de poids de l'arrière vers l'avant est au bon timing, au bon moment. Et c'est ça le secret, en fait. Si on est que sur l'arrière et on reste sur l'arrière, eh bien, on ne va pas bénéficier de cette inertie qui va faire jumper la balle. Si on se met, on fait le transfert de poids trop tôt, eh bien on va faire souvent des roulants et puis on va pas avoir la puissance non plus. Donc il faut trouver le good balance, l'équilibre entre back foot, transfert de poids et la rotation avec la bonne extension qui fait que la balle va vraiment exploser. Et c'est ça la grande difficulté, que ce soit au pitching ou à la frappe, c'est d'enchaîner de la manière la plus smooth possible ces trois choses, translation, rotation, extension, qui font que ça fait la différence. Et je le cite, c'est Boone qui disait, quand je suis passé au spring training et j'ai vu Volpi dans la cage, eh bien j'étais content car j'ai vu une différence au niveau de l'impact de la balle. Quand la balle sort du bâton, ça jump parce qu'il a capté cette inertie et ce good timing, ce bon timing au moment où la balle va frapper la batte.
Très
mais
bien.
Non, c'est hyper compliqué à changer. Ah oui. Pour répondre à la question, c'est des centaines de swings quotidiens. Déjà, c'est dire qu'est-ce que je fais, analyse, ok, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais. Ensuite, c'est ok, maintenant c'est ça, tu fais du shadow, et puis après, c'est des 500 swings, 1000 swings par jour, pendant tous les jours, pour qu'il puisse rentrer dans la mémoire musculaire. Parce que souvent, on prend la batte, on y va, on a le swing naturel, voilà, n'importe quel débutant donne une batte, tu vas soit tirer la balle, soit tu vas être pousseur de balle de manière naturelle. Ensuite, une fois que c'est ça, tu dois travailler pour que ça puisse être optimisé en fonction de qui tu es, comment tu es et ce que tu fais. Une fois que tu l'as, après, pour le changer, ce côté naturel, c'est très compliqué. Et il y a même des techniciens qui disent il ne faut surtout pas changer le côté naturel pour garder cela et aller à l'encontre, surtout au niveau des lanceurs, pour éviter d'avoir des blessures notamment. Ça peut être aussi dangereux sur l'impact physique, mais non, c'est extrêmement dur de faire ce qu'il a fait. Et pour l'instant, ça paye, donc bravo à lui.
C'est ça, tout à fait. Pour l'instant, ça paye. On rappelle que Anthony Volpi sort d'une saison en 2020. Il a été d'ailleurs Gold Glove, premier, je crois, c'est le plus jeune de l'histoire des Yankees à remporter ça. Il occupe un poste en plus qui n'est pas forcément évident aux Yankees quand on connaît les noms qui sont passés. Donc, ça rajoute encore à la pression pour ce jeune joueur qui, effectivement, doit confirmer sa première bonne saison. au rang des surprises et des équipes un peu, enfin pas un peu invaincues, invaincues encore jusqu'à présent. Donc on a les Brewers qui vont rejouer à partir de cette nuit, mais il y en a deux autres. Ce sont les Tigers et les Pirates qui sont elles aussi invaincues. Deux équipes dont une quand même qu'on voyait peut-être potentiellement être une surprise cette saison parce qu'on sentait qu'il y avait eu du développement, parce qu'il y avait des... Les planètes commençaient potentiellement à s'aligner. Et les Pirates, dont on ne savait pas trop encore quoi penser, bah, résultat des courses, les deux équipes sont invaincues. Moi, j'ai noté un truc. C'est que les Tigers sont très efficaces quand ils passent au marbre. Il n'y a pas forcément beaucoup de coups sûrs, parce qu'ils ne sont que 23e de la MLB en ce début de saison en termes de hits. Pourtant, ils gagnent. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'efficacité quand tu passes au bâton avec de la présence sur base, etc. C'est très efficace aussi dans le pitching. C'est la deuxième ERA collective derrière celle des Red Sox. Bon, ça aussi, je crois que c'est le truc improbable et qu'on a forcément en début de saison parce que tout le monde n'est pas encore bien ajusté. Donc, le pitching, ça marche bien côté Tigers. La frappe, ça va. Ils en sont déjà à deux blanchissages, deux shutouts depuis le début de la saison, donc ce qui est déjà assez incroyable. Comment, à part le fait que ce soit le début de saison et que tout le monde n'est pas encore bien ajusté, comment on peut expliquer que deux équipes comme ça qui n'ont pas joué les premiers rôles depuis un certain nombre d'années, d'un seul coup se retrouvent aussi efficaces et aussi haut dans les classements?
Alors, je pense que les Tigers, pardon, donc Détroit, c'est un peu une anomalie. Ils ne devraient pas être là. 16 points marqués en 4 matchs, quand, je sais pas moi, les Rangers qui sont numéro 1, ils en ont 30. Quand les Braves, ils en ont 34. Ouais. Quand même les Pirates, ils en ont 39. Et les Dodgers, 47. Bon, ils ont 7 matchs. Plus, mais... Voilà, deux, ils ont 7 matchs, c'est sûr. Mais ça fait quand même une moyenne de quasiment 7-8 points. Parce qu'eux, ils en ont 16 sur 4 matchs. Donc, ça fait 4 points par match. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une perfection au niveau du pitching pour pouvoir gagner. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir cela? Eh bien, je l'espère pour eux. Mais à un moment donné... Ça va certainement coincer. S'il faut gagner 2-0 à chaque fois, c'est un peu compliqué au baseball. Donc, pour les Tigers, non, on ne s'y attendait pas et je ne pense pas que ça va pouvoir tenir. Maintenant, pour les Pirates, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont une équipe jeune. Déjà, l'année dernière, ils avaient quand même des joueurs qui ont réussi à sortir un petit peu du lot. Ils ont surtout un O'Neill Cruz stratosphérique, incroyable, des superlatifs comme Eli de la Cruz. Les deux joueurs font 2 mètres, ils courent aussi vite que Carl Lewis, ils sautent comme LeBron James, et puis au niveau athlétique, ces deux-là, c'est quasiment le même moule. Ils frappent des boulets de canon à 120 miles à la sortie. Enfin voilà, c'est bon. Et puis ils ont pour les Pirates, McCutchen qui est toujours là, le vétéran qui arrive à trouver une homogénéité entre les anciens et les jeunes. Il prend du plaisir et puis ils ont fait d'autres imports qui font que, ils sont là, ils sont bien là. Et dans leur pool, si tant est qu'on trouve que les Tigers sont, c'est une anomalie, malgré que le fait que la centrale ne soit pas très forte, parce qu'il y a les Kansas City, on ne pense pas que ça va aller très haut, les White Sox font un très mauvais départ, mais on imagine plus les Guardians et les Twins passer devant. Mais pour les Pirates, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que les Cubs, c'est pas mal, mais derrière, ça peut être une équipe surprise. Les Brewers, c'est bien aussi, hein, 3-0, attention. Ouais. C'est une équipe qui a été complètement remodelée, que j'ai suivi avec attention parce que je regardais pour Ernesto, voir s'il allait pouvoir craquer le 40-man roster. Mais c'est pas mal du tout aussi les Brewers. Donc, les deux équipes de jeunes et après les Cubs, normalement, ça devrait être aussi en haut. Les Cardinals, voilà, la saison qu'ils ont fait l'année dernière, j'espère que ça ne va pas repartir à l'inverse de leur côté. Donc, il y a un coup à jouer pour les Pirates d'aller pouvoir chercher cela. Maintenant, ils ont 5 matchs, ils ont scoré 40 points, ils en ont pris 21. 21, c'est beaucoup. Les Tigers, ils en ont pris que 9. Voilà, c'est pour ça en fait que les Tigers 8, c'est pour ça que les Tigers ils sont là-bas. Les Pirates, s'ils veulent aller plus loin, c'est l'inverse. Donc si on fait un mix des deux, ça peut faire une équipe superstar, voilà. mais voilà, name of the game is pitching. Quand tu as un bon pitching, tu peux gagner des matchs. Si tu en as pas, il faut scorer beaucoup de points, et le problème de la frappe, c'est que en face, si tu peux avoir, une fois que les lanceurs seront bien rodés, d'ici un mois et demi, quand tu arrives au mois de juin, juillet, là, c'est plus la même quand tu es frappeur et quand tu es l'équipe à la batte. Voilà, normalement, les routines et les pitchers sont quand même dans une forme un peu différente. Il fait chaud, il fait beau, tu lances plus fort, tu transpires. Voilà, c'est avantage aux lanceurs l'été. Le froid et l'humidité, c'est un peu difficile quand on est lanceur. Donc voilà, pour moi, équipe surprise, Pirates peut-être, les Tigers, je ne pense pas.
Ouais, sur la durée, effectivement, quand on regarde les chiffres, c'est sûr que tu te reposes beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le lancer et la défense de manière générale. C'est vrai que sur la durée, ça peut être un petit peu compliqué. En tout cas, ces deux équipes-là font... un très bon, très très bon début de saison. Donc, juste la petite précision, 1,89 de moyenne de points concédés pour les Tigers en ce début de saison. C'est vraiment très fou. Et je te dis, il y a que les Red Sox qui font mieux avec je sais plus combien c'est, j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est 1,60, quelque chose comme ça. Et après, on passe à 2 avec les Yankees. Donc après, c'est forcément au-dessus de 2, ce qui est déjà en ERA collectif, qui est déjà assez exceptionnel. T'as cité une équipe qui marquait beaucoup de points. Forcément, ils ont 2 matchs de plus. Je taquine. C'est les Dodgers, et ils sont portés par un homme qui est aujourd'hui en tête de la Ligue en termes d'OPS. C'est mon favori pour le titre de MVP de la National League. Et je dis pas ça parce qu'il y a Chris, je le pense vraiment. C'est Mookie Betts qui, malgré un changement de poste et une adaptation, et ça on pourra l'évoquer, à la frappe par contre, on reste sur des standards ultra élevés. L'homme fort du Big Three, si on fait un peu une analogie avec la NBA et les Big Three, le Big Three des Dodgers, c'est Betts, Freeman et Otani. Otani trouve ses marques petit à petit, fait des petites erreurs de course, juste comme ça, essayer d'aller en troisième base alors qu'il y a déjà quelqu'un, par exemple. Mais Mookie Betts, lui, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'intersaison, pas de sprint training, c'est la continuité de l'année dernière et des années d'avant. Une régularité comme ça au plus haut niveau, c'est... j'ai pas envie de dire du jamais vu, parce qu'on a sans doute déjà vu, mais là, c'est quand même exceptionnel.
Ben oui.
Merci Chris.
Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Non, mais c'est difficile. Bon, je ne vais pas me le cacher, c'est vraiment mon joueur favori depuis longtemps. Pour tout ce qu'il représente, pour toutes ses capacités. Et même quand il était au Red Sox, c'était pas loin d'être mon joueur favori. Mais maintenant qu'il est aux Dodgers, ça c'est clair. Capable de jouer toutes les positions. Mais à la frappe, et quand on parlait de détonateur, c'est vraiment lui. Si on reprend les World Series, quand ils gagnent, oui, ils les ont gagnés, même s'il y avait moins de matchs, j'assume. C'est pas une victoire volée, bande de haters.
J'ai rien dit.
Eh bien, c'est lui qui fait scorer au départ. Quand il frappe, eh bien, il gagne. Voilà, il vole les bases, il plonge, il fait des attrapés dans le champ, etc., qui font que c'est clutch, avec Cody Bellinger quand il gagne en 2020. Et puis l'année dernière, il frappe pas, et puis c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, mais si on reprend ta question, MVP, alors oui, cette semaine, alors là, c'est clair, il a joué, ils ont 7 matchs, il a 5 home runs, 4 home runs, il frappe, je sais plus combien de hits par rapport au nombre d'at-bats, enfin, c'est hallucinant. Et tout cela avec d'autres joueurs qui sont autour de lui capables de frapper aussi, parce qu'on parle de Freeman, on parle de Shohei bien évidemment, mais on a vu Teoscar Hernandez, on a vu Max Muncy, on a vu d'autres joueurs de son line-up. Eh bien, j'ai l'impression que ça le motive encore plus. Il se dit pas, c'est bon, c'est les autres qui vont le faire. C'est moi, je vais être le MVP parmi les MVP. Voilà, je reste le leader, parce qu'on aurait pu se dire, bah tiens, c'est Shohei Ohtani, il arrive, il va prendre la place de leader. Non, aujourd'hui, c'est lui le leader. C'est lui le leader, c'est lui qui commence, c'est celui qui allume la mèche, c'est celui qui fait que le line-up va partir. Encore une fois, en 8e, en 9e manche, c'est lui qui ramène son équipe. C'est potentiellement, s'il continue, l'année dernière il s'est fait battre par meilleur que lui, c'est pas qu'il a été mauvais, il était dans le calibre du MVP, c'est juste que Acuña a fait quelque chose de stratosphérique, voilà. C'est comme si la saison n'avait pas arrêté pour lui et il continue sur les bases qu'il avait l'année dernière. Donc oui, maintenant je vais redire ce que j'ai dit sur les équipes. C'est la première semaine. Donc, s'il continue comme ça, il va frapper 70 home runs. Parce qu'il y a 7 matchs et donc il a frappé 4. Donc, s'il frappe un home run sur 2, 160, ça fait 80 même. Voilà. Voilà. Mais ce ne sera pas possible, je pense. Il y a quand même des phases où on est un peu plus dans le dur, etc. Et la seule plus ou moins saison où il a eu des difficultés, c'était, je crois, 2021, où il avait des douleurs au dos. Mais il a quand même joué. Et il a été correct. Mais les saisons où il est en pleine forme, et c'est ça le secret pour n'importe quel bon joueur ou très bon joueur de MLB, c'est d'être en forme physique. Quand ils sont en forme physique, eh bien, c'est bon. Ils font des saisons de MVP. La preuve, Aaron Judge, la seule saison qu'il fait complète sur les 10 dernières années, c'est ça le problème. Peut-être pas 10, mais sur les 5 dernières années, eh bien, il est MVP. Ouais. Bon, l'année dernière, pas de chance, il s'est cassé le pied dans un mur. Voilà, mais la seule saison où il fait quasiment les 160 matchs, il termine MVP. Voilà, donc on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Ça enlève aussi du poids à Ohtani, parce qu'il est entouré de deux MVP. Donc Ohtani ne va pas se dire, tiens, je dois le faire tout seul. Quand tu étais aux Angels avec un Trout un peu diminué ou blessé comme il a pu être, il devait faire tout seul. Donc là, il peut se reposer un peu et être un peu plus libre également. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce line-up. Voilà.
13 hits en 25 at-bats.
Voilà, 13 pour 25, ça fait 500 de moyenne quasiment.
Ça fait 520 de moyenne, un OBP à 636, un slugging à 1200. Voilà, et 1836 d'OPS, on est sur 4 home runs, 10 points produits, 8 buts sur balle et seulement 2 strikeouts. Ouais, donc ça, en plus, on a de la patience, on a de la patience au bâton. Alors que, tu parlais de Teoscar Hernandez, parce que j'ai les chiffres devant les yeux, Teoscar Hernandez est déjà à 13 strikeouts. Ouais. Un peu moins patient le garçon, mais aussi très 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 efficace. En quoi c'est important? Je vais m'adresser à ceux qui découvrent un petit peu le baseball aussi cette année, et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. En quoi c'est important pour une équipe d'avoir un bon lead-off? Donc le lead-off, on rappelle, c'est le premier frappeur dans l'alignement. En quoi c'est important que le premier frappeur soit potentiellement ton meilleur?
C'est celui qui lance, c'est le lanceur, pas le lanceur celui qui est pitcher, hein, mais c'est celui qui lance l'attaque. Voilà. Et son objectif, c'est d'arriver en base. Normalement, c'est pas de frapper d'home run. Bon,
oui, bon, certains lead-off, les deux.
Voilà. Mais si on prend un lead-off un peu atypique, Kyle Schwarber, voilà. Il frappe 200 de moyenne. Tu dis, mais c'est nul. Sa moyenne, c'est nul pour un lead-off. Normalement, il doit frapper 300 de moyenne. Et voilà, lui, il frappe même pas, je crois, 200, 190. Sauf que il a un œil d'une vision redoutable qui lui permet de voir si c'est des buts sur balle. Et en plus, quand on lui lance une bonne balle, en général, il la frappe à home run. Donc, ça fait peur au lanceur. Et c'est celui qui va vraiment donner le ton. C'est celui qui donne le rythme. C'est celui qui a le tempo. C'est celui qui... Voilà, si on a un métronome, c'est celui qui va lancer son attaque. Et bon, c'était un peu mon rôle quand j'étais plus jeune, au début de ma carrière. Et je me souviens une fois avoir joué avec, je sais plus, un match amical avec un Rouennais, Blake Denischuk. Et j'étais lead-off et j'arrive, je passe à la batte et je suis un peu hyperactif. J'étais assez tonique, j'aimais bien swinger, etc. Et je fais un super at-batte, basse pleine, je frappe une line drive et puis je me fais éliminer. Et il me regarde, il me dit « Ouais, c'est bien, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Tu m'as motivé en fait. Ton at-batte m'a mis dedans. Ton at-batte m'a donné envie de frapper et de te suivre. » Voilà, c'est un peu ça l'objectif, c'est l'éclaireur. C'est celui qu'on envoie dans des moments où tu as peur, où tu as l'impression que tu vas prendre, tu es dans un tunnel, tu ne sais pas trop où aller, et bah, lui, il n'a pas peur, il y va. Deuxième anecdote du lead-off, si tu parles du lead-off, j'étais lead-off en équipe de France, donc c'est, allez, ça remonte. 2001, Coupe du Monde à Taïwan, je suis le lead-off, on est visiteur, donc au niveau des visiteurs, c'est toi qui passes à la batte en premier, le lead-off en premier. On joue contre Taïwan, à Taïwan, en Asie, et les mecs là-bas, ils tapent, ils font du bruit, pam, 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 15 000, 20 000 personnes dans le stade, même pour nous voir, nous, petits Français, ça fait du bruit, tu t'entends même pas parler, etc. Et c'est toi le lead-off. Donc 2001, j'ai 20 ans, je suis lead-off, c'est moi qui commence. Ok, vas-y, fonce. Et là, tu vas dans la boîte et je crois que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé tellement c'était un univers incroyable. Et voilà, il ne faut pas avoir peur. Par contre, je n'ai pas eu peur, j'ai eu envie. C'était de l'adrénaline qui me donnait la force. Et voilà, ce rôle de lead-off, c'est un peu ça. C'est un peu le fou, l'éclaireur, celui qui va prendre la lanterne, trouver les chemins où on ne sait pas trop où aller et avoir le sang-froid nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi. Et à l'inverse, si on met un lead-off qui donne pas un ton qui est bon, trois lancers, il frappe des balles hautes, et ben tout de suite ça peut mettre ton équipe dans une mauvaise mood et la mauvaise direction dans laquelle ton équipe peut aller assez facilement au baseball. Le momentum, il peut être pris très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Le créateur de momentum, on va dire le lead-off, hein, le créateur de moment, celui, l'éclaireur, celui qui va ouvrir les brèches, voilà, c'est ça le lead-off.
Il y en a un autre qui est bon, hein, c'est Ronald Acuña Jr. aussi, qui est, du coup, on en parlait tout à l'heure, qui lui aussi est lead-off du côté des Braves, et effectivement, capable d'aller en première base, de pouvoir voler en plus derrière la deuxième, donc effectivement, ça te donne vraiment la voie à suivre pour la suite. Ton œil de fan sur ces Dodgers depuis le début de saison?
Écoute, je suis rassuré parce que Yamamoto a fait une sortie
oui.
plus que positive. Ouais. Voilà, je pense que pour le coup, à Séoul, l'émotion était peut-être un peu trop forte. Voilà, premier start à Séoul, en Asie, avec toutes les attentes. Il a eu une petite semaine pour se remettre et il est arrivé, il a lancé cinq manches. Et ça a été parfait pour lui. Donc ça, c'est top. Tyler Glasnow, incroyable. Franchement, je pense que si Yamamoto est effectivement la bonne pioche de cet hiver, Glasnow, lui, pour le coup, c'est vraiment le coup qu'ils ont fait. Encore, je dirais même plus, je m'avance, encore plus que Shohei et encore plus que Yamamoto. Pour le fait d'aller pouvoir gagner, parce que Shohei, avec sa batte, il ne peut pas faire gagner ton équipe. Mais un pitcher, en plus de Yamamoto, donc Glasnow, par rapport à ses performances qu'il a faites depuis le début de saison, c'est bah, comme Mookie, c'est voilà, ton ace. C'est lui l'ace aujourd'hui, ce n'est pas Yamamoto. Il arrive avec son expérience, il a une saison blanche parce qu'il était blessé. Et vraiment, c'est super. Et puis après, les rookies, Bobby Miller et Grove, c'est fantastique. Clayton Kershaw n'est toujours pas revenu, donc il va pouvoir apporter aussi. Donc voilà, la profondeur de l'alignement est super. La frappe, on a parlé du Big Three, mais Teoscar Hernandez a été incroyable. Max Muncy a fait ramener son équipe à la fin. En fait, ils sont... Franchement, sur cette première semaine, s'ils jouent comme ça toute l'année, ils ont perdu un match, mais c'est à chaque fois des matchs d'un point. Donc, un, il va falloir aller les chercher. Et deux, pour qu'on puisse aller les chercher, il va falloir envoyer du pâté et faire des performances exceptionnelles contre eux. Donc, je suis très content, forcément, de voir ce que je vois. Shohei a eu un peu des déboires extra-sportifs qui impactent certainement son jeu actuel. Sûr. Il y en a toujours un petit peu. Il va falloir qu'il passe un petit peu cette zone de turbulence. Et il n'est pas encore en mode Shohei Ohtani qu'on a vu MVP. Donc, mais si on le met en mode Shohei Ohtani où Freeman, il augmente encore son niveau. Ouais. C'est déjà fantastique et c'est pas optimisé en fait. C'est pas encore. Voilà, au niveau défensif, c'est un peu réglé. Ils ont trouvé le coup avec Rojas qui rentre quand c'est un gaucher et ils se font sortir Gavin Lux et ils mettent Mookie en deux. Donc ça peut, ça peut aussi faire une super équipe, quoi. C'est une super équipe. Ils ont mis les moyens et ils arrivent à les mettre en musique pour l'instant. Mais comme je disais la dernière fois, je suis un peu long, mais le sujet ne sera pas la saison régulière. Le sujet, ce sera d'arriver on top au mois d'octobre et d'aller chercher la victoire finale. Voilà, pour eux, clairement, c'est ça.
Ah bah oui, effectivement. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, hormis effectivement le Big Three, c'est la capacité qu'ils ont eue aussi à ce que le bas de l'alignement élève aussi leur niveau pour pouvoir les faire gagner. Et Teoscar Hernandez est le... comme bas d'alignement, c'est sûr qu'il y a pire, mais il est le symbole justement des seconds couteaux des Dodgers qui, après le Big Three, arrivent et sont capables aussi de performer. Et c'est la profondeur est, je pense, aussi ultra importante. Et s'ils arrivent tous à se mettre de concert, ça va être dur.
Oui, parce que c'est impossible que tout le monde frappe pendant le même match, au même rythme. Ah oui, il y aura forcément des passages à vide, on fera des 0 pour 4, ça arrive à tout le monde, sauf que ça peut arriver quand l'autre, ça ne lui arrive pas. Et donc, s'il y en a un qui est à 0 pour 4 parmi les 3, bah, l'autre, il va frapper 2 pour 4, 3 pour 4, un home run, et ainsi de suite. Mmh. Et si on passe ces 3-là, eh bien, c'est autour de Max Muncy, c'est autour de Hernandez. Donc, ça, finalement, l'intensité ne baisse quasiment jamais. Peut-être avec Rojas et avec Gavin Lux qui sont un petit peu en dessous là, mais effectivement ce line-up, c'est du très très lourd. Maintenant il y en a d'autres aussi, hein. Les Braves c'est du très très lourd, les Orioles ils ont fait mal, ils ont fait très très mal. Hein.
Les Braves effectivement le premier match, leur match d'ouverture qui a été décalé à cause de la pluie à Philadelphie, bon, ceux qui ont suivi aussi, ben alors le match d'ouverture, il y a 2-2 jusqu'à ce que les Aces sortent. Ben alors après, il n'y avait plus personne en face. Hein. Ils leur ont roulé littéralement dessus et ils ont continué et ils continuent à le faire. C'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. Donc aux États-Unis, ça a repris. Et en France, ça va reprendre ce week-end la D1 Elite. Donc peut-être que vous avez un club à côté de chez vous qui est en D1 Elite. Pour ma part, à La Rochelle, il y en a un, donc j'ai cette chance-là. Nouvelle saison avec moins d'équipes et avec notamment une nouvelle règle dont j'aimerais que tu expliques un petit peu ce que ça peut changer. C'est la règle par rapport au nombre de joueurs français issus de la formation française qui doivent faire partie des équipes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les 8 équipes ? 8 ? Oui, 8.
Ça va changer que on ne pourra plus avoir une équipe constituée que de mercenaires, notamment au niveau du pitching. Je le dis souvent, très très souvent, name of the game is pitching. Donc il suffisait éventuellement d'avoir deux lanceurs étrangers, voire un assimilé parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ça faisait que tu pouvais arriver en haut de l'affiche assez facilement et assez rapidement avec un investissement sur des joueurs. Cependant, ça faisait que les joueurs sur lesquels on avait misé, qui sont passés par les pôles, qui sont passés par la formation où on essaie d'en former depuis 10-15 ans, qui résultent d'avoir aujourd'hui Mathias Lacombe en Minor League, où il va y avoir certainement d'autres joueurs qui vont arriver avec Ben Couvreur, avec d'autres jeunes qui viennent, leur donner aussi un espoir pour ceux qui y arrivent, mais ceux qui n'y arrivent pas, qui sont allés en collège, bah, ils revenaient dans les équipes françaises et ils n'avaient pas forcément leur place parce qu'à chaque fois, on allait chercher que des top lanceurs et le niveau aussi des étrangers qu'on allait ramener était de plus en plus haut pour différentes raisons, notamment, je sais pas, au Venezuela, puisqu'il y a une crise qui est économique qui est très très forte. Du coup, on pouvait faire venir des joueurs vénézuéliens pour pas très cher. Et voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce que ce sera un peu, allez, pas plus difficile d'aller chercher, parce qu'il va falloir recruter les meilleurs jeunes, mais surtout, ça donne quand même une vision, une fenêtre de tir aux jeunes qui parfois arrivaient, revenaient des États-Unis et disaient « bon, bah, j'arrête ». Et en fait, ça ne donne pas de la vision. Ok, je veux jouer professionnel, j'ai 18 ans, je pars aux États-Unis, je fais junior collège, 20 ans, je vais dans un Division 2, Division 1 éventuellement. Je reviens en France, je ne peux pas jouer parce qu'il y a des meilleurs étrangers, parce qu'il y a une règle qui nous permet d'avoir 5 étrangers. Du coup, je n'ai pas de place dans le line-up. Petit à petit, il y avait au début que 1, 2, 3 équipes qui faisaient ça, et puis les 8 finalement faisaient ça, ou quasiment. Et donc après, ils se disaient, bon, bah, ok, je vais en D2. Bah non, j'ai pas, mon niveau n'est pas la D2, donc j'arrête. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ça fait aussi que bah, on donne de la valeur au club formateur, puisque c'est quand même aussi important d'avoir des clubs qui font de la formation et de leur donner de la... voilà, si tu as été formé au club, on peut continuer à promouvoir un petit peu cela. Donc, non, je pense que c'est une bonne décision. Il va falloir s'adapter comme toute nouvelle règle. Et par contre, ça a fait que certaines équipes ont dit, bon, bah, non, je ne vais pas pouvoir y aller, quoi.
Effectivement. Donc voilà, la D1, ça reprend. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir du baseball, aller dans votre club local. Les deuxièmes divisions, régionale 1, régionale 2, ont déjà repris depuis plusieurs semaines. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre club en local. Chris, c'est la fin de notre épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouvera la semaine prochaine si tout va bien. Le programme de Beansport, vous l'avez retrouvé, il est disponible sur le compte Twitter MLB Extra. Il y a pas mal de matchs cette semaine. Je crois que tu es au commentaire d'ailleurs.
Jeudi à 22h, les voilà. Guardians contre les Twins.
Eh ben voilà. Comme ça, vous pourrez entendre Chris à nouveau cette semaine, mais ce sera sur Beansport. Merci encore Chris. Et pour conclure, dans la description de ce podcast, je vais vous mettre le lien du Discord qu'on a ouvert lundi, pour venir échanger. On essaye de vous donner une plateforme sur laquelle tous les fans de sport US, que ce soit NBA, NHL, MLB et NFL, puissent échanger quotidiennement avec entre vous, mais aussi avec l'intégralité de la rédaction de TFA. Donc, n'hésitez pas, le lien sera dans la bio, venez nous rejoindre, on est déjà un peu plus de 70, donc c'est un bon début au bout d'une journée, et on espère que cette communauté va grandir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute de cet épisode. Enfin là, du coup, c'est terminé, vous entendrez ça, mais bon, c'est pas grave, et n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de la famille TFA, N1, Tailgate, qui sont disponibles aussi sur les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de First Pitch. Salut.
See ya.